Tout de suite, le journal Thomas Cluzel. Bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. La Commission européenne vient de rejeter le projet de fusion entre le français Alstom et l'allemand Siemens, un veto largement anticipé qui dès ce matin avait d'ores et déjà provoqué la colère de Paris et Berlin, fervents partisans de la création d'un champion européen du ferroviaire pour faire face notamment à la concurrence chinoise.
Et dans cette édition également, la Cour des comptes qui a publié ce matin son rapport annuel 2019.
Oui, rapport qui met en lumière des exemples de mauvaise gestion de l'argent public. Pour en parler avec nous, invité du journal dans une dizaine de minutes, la députée UDI Frédérique Dumas. Après le revers essuyé hier soir par l'exécutif au Sénat, mais aussi après le non-vote de certains députés indisciplinés de la majorité à l'Assemblée, et bien sûr au lendemain d'une journée de mobilisation à l'appel de la CGT, nous nous poserons la question de savoir si Emmanuel Macron ne serait pas en train de recréer lui-même les conditions d'un clivage droite-gauche tel qu'il existait dans l'ancien monde.
En dépit de ses appels à l'unité lors de son discours hier soir sur l'état de l'Union, Donald Trump se sera avant tout adressé à sa base électorale.
Oui, tout en appelant à surmonter les vieilles divisions et à forger des compromis, le président américain est resté inflexible sur ses thèmes de prédilection, l'immigration et le commerce, qu'il ne devrait cesser de développer en vue de l'élection présidentielle de 2020. Et puis alors qu'on a appris hier que le prochain sommet entre le président américain et son homologue nord-coréen aurait lieu au Vietnam à la fin du mois, il semble que Washington soit prêt désormais à se montrer plus flexible dans ses négociations avec Pyongyang. Enfin, 12h55, Olivia, ce sera bien sûr la grande table des idées.
Journaliste, une profession en crise, une profession en tout cas en pleine mutation. Alors vers une presse sans journaliste, on va revenir sur la situation de la presse et plus largement des médias avec nos trois invités. Olivier Goujon, qui est photoreporter et qui publie « C'est con » de journaliste chez Max Milo, et le sociologue Olivier Pilmis, chargé de recherche au Centre de sociologie des organisations, spécialiste de l'intermittence au travail, en discussion avec notre partenaire de Sceaux Presse, Thomas Pitrel.
Merci, à tout à l'heure. Sans même attendre la décision de Bruxelles, le gouvernement français avait donc confirmé dès ce matin ce que tout le monde attendait ou redoutait. La Commission européenne mettra bel et bien son veto au projet de fusion entre l'allemand Siemens et le français Alstom. Au nom du libre jeu des forces, du marché, comprenez d'une concurrence équitable, la création de ce géant du rail annoncé en grande pompe il y a 18 mois et loué par Paris comme Berlin comme un accomplissement en quelque sorte de l'idéal européen n'aura finalement pas lieu. Hakim Kasmi, bonjour.
Bonjour Thomas Cluzel.
Alors la Commission européenne avance notamment que cette fusion de Siemens et Alstom aurait eu des conséquences désastreuses, en particulier en faisant monter les prix des trains pour les compagnies ferroviaires et par voie de conséquence celui des billets pour les consommateurs. À l'inverse, les gouvernements français et allemands comme les industriels jugeaient indispensable de mettre sur pied un champion capable de rivaliser la concurrence chinoise qui a raison et qui a tort, Hakim.
Alors il faut le dire que malgré ces pressions politiques, hein, Paris et Berlin qui voulaient créer un Airbus du rail, eh bien la Commission n'a pas cédé. Elle exclut toute position idéologique et fait valoir les textes et la défense des opérateurs ferroviaires comme la SNCF, la Deutsche Bahn ou encore Trenitalia, mais aussi celle des passagers, car elle estime qu'un tel rapprochement aurait fait monter le prix des trains, du matériel ferroviaire, ce qui aurait eu des répercussions sur le prix des billets et donc sur les consommateurs européens. Notamment sur le marché des TGV, la grande vitesse, et sur la signalisation par rapport à son concurrent canadien, Bombardier. Bombardier qui, rappelons-le, partage déjà certains contrats avec Alstom sur du matériel ferroviaire, notamment en Île-de-France, sur les RER ou encore des trains de banlieue. Alors Alstom et son collègue allemand étaient prêts à faire des concessions en cédant notamment 4% de leurs actifs dans la signalisation, mais cela n'aura donc pas suffi. Quant à l'argument de la menace chinoise brandie par Siemens et Alstom, la Commission le balaye en expliquant que si le CRC est numéro un mondial avec un chiffre d'affaires de 26 milliards d'euros, sa présence en Europe reste toutefois limitée, avec tout de même, Thomas, des contrats en Europe de l'Est, notamment en Macédoine, en Serbie et en République tchèque. Autant d'arguments que réfutent les deux constructeurs, ainsi que Bercy, pour qui cette décision est un véritable cadeau donné à la Chine, dont le marché du ferroviaire reste fermé, contrairement à l'aéronautique ou encore à l'automobile, pour privilégier son champion local. Alors, quant à savoir s'il y aura un autre mariage, par exemple entre Alstom et Bombardier, ou d'autres concurrents européens comme l'espagnol CAF, eh bien dans ce type de dossier, tout est possible.
Merci Hakim Kasmi. Puis j'ajoute que face au refus de la Commission européenne, Paris et Berlin ont fait savoir qu'ils souhaitaient refonder les règles de la concurrence européenne, notamment en soumettant les décisions de la Commission aux chefs d'État et de gouvernement, ou dit autrement, s'assurer à l'avenir de mieux pouvoir contrer les décisions de l'organe exécutif de l'UE. Quand droite et gauche invoquent là encore des arguments économiques tout autant que des questions de souveraineté, hier soir au terme d'un long débat parfois houleux, Les sénateurs ont rejeté à une large majorité les dispositions du projet de loi Pacte qui devait ouvrir la voie à une privatisation de l'opérateur d'aéroport ADP et de la Française des Jeux, infligeant ainsi un sérieux revers au gouvernement. S'agissant cette fois-ci de l'adoption hier à l'Assemblée de la loi anti-casseurs, 66 députés de La République En Marche, un record depuis le début du quinquennat, ont choisi soit de s'abstenir, soit de ne pas participer au scrutin. Alors ces quelques voix manquantes ont été largement compensées par celles du groupe Les Républicains. Quoi qu'il en soit, et même s'ils ne constituent pas véritablement encore des frondeurs au sens où on pouvait l'entendre dans la majorité précédente, ces députés indisciplinés auront mis en évidence une première faille dans la cohésion entre le gouvernement et sa majorité. Autre signe témoignant des difficultés actuelles de l'exécutif, un peu plus tôt dans la journée, des centaines de milliers de personnes avaient battu le pavé partout en France, à l'appel notamment de la CGT, mais aussi et pour la première fois avec la participation de Gilets jaunes. Alors, à la faveur de ces différents épisodes, hier au Sénat, à l'Assemblée et dans la rue, où chacun semble avoir repris son rôle, eh bien une question se pose. Est-ce qu'après avoir bouleversé et même atomisé le rapport droite-gauche en prétendant que l'on pouvait se revendiquer des deux à la fois, Emmanuel Macron n'a-t-il pas lui-même favorisé au fond la réémergence et même l'affirmation aujourd'hui de vraies sensibilités politiques de nature à relancer le fameux clivage droite-gauche? Élément de réponse avec Stéphane Robert.
Oui, l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée a bousculé et déstabilisé le clivage droite-gauche et on peut voir que les groupes ou les familles politiques qui se revendiquent encore de ce clivage essaient de le réaffirmer avec plus ou moins de succès. Le Sénat a montré hier soir qu'il campait résolument dans l'opposition en s'opposant à la privatisation d'Aéroports de Paris dans le cadre de l'examen de la loi Pacte. Mais on ne peut pas véritablement parler d'une réaffirmation du clivage droite-gauche puisque les sénateurs de droite, majoritaires au Palais du Luxembourg, ont été rejoints par les sénateurs de gauche, eux aussi opposés au projet de l'exécutif. Pour ce qui concerne la journée de grève et de manifestation hier, nous avons assisté à une tentative de la gauche contestataire de se greffer sur le mouvement des Gilets jaunes pour réaliser ce qu'elle appelle la convergence des luttes. Mais avec 150 000 manifestants ou un peu plus dans toute la France, on est loin du compte. Et pour cause, les Gilets jaunes ne sont par essence pas un mouvement qu'on peut qualifier de gauche. Au contraire, la plupart des personnes qui depuis 2 mois et demi revêtent un gilet fluorescent rejettent toute appartenance à une quelconque sensibilité politique. On peut dès lors dresser ce constat que le clivage droite-gauche reste mal en point. Et du coup, on voit une forme d'opposition s'organiser au sein même de la majorité. C'est ce qu'on a constaté hier après-midi avec le vote de la loi anti-casseurs. Une cinquantaine de marcheurs se sont abstenus, 14 autres ne sont carrément pas venus. Personne évidemment n'a voté contre et on ne peut en aucun cas parler de fronde au Palais Bourbon, mais quand même de l'expression d'une sensibilité plutôt de gauche au sein du groupe La République En Marche contre un texte massivement voté par la droite. Ça ne signifie pas pour autant que le clivage droite-gauche rejaillit comme élément structurant de la vie politique française. On assiste encore, face à Emmanuel Macron, à une atomisation des oppositions.
En plein débat national sur les dépenses et la fiscalité, la Cour des comptes appelle l'exécutif à redoubler d'efforts pour assainir les finances publiques, fragilisées selon elle par les mesures annoncées face au mouvement des Gilets jaunes. Voilà peu ou prou ce qui ressort du rapport annuel donc de l'institution publié ce matin. Marie Viennot, bonjour.
Bonjour.
La Cour des comptes se dit essentiellement préoccupée sur l'évolution du déficit public.
Oui, la Cour alerte sur la fragilité du redressement de nos comptes publics. Entre 2017 et 2018, le déficit public français n'évolue pas. Il est à 2,7% du produit intérieur brut. Et en 2019, il doit passer à 3,2% selon le gouvernement. Cette augmentation est liée aux mesures prises en fin d'année du fait de la crise des Gilets jaunes, mais c'est un chiffre hautement optimiste. D'une part, prévient la Cour des comptes, parce que la situation économique internationale est incertaine. Du coup, la prévision de croissance du gouvernement pour 2019, 1,7%, pourrait être surestimée. Et d'autre part, parce que les mesures pour le pouvoir d'achat annoncées en fin d'année ne sont que partiellement intégrées dans la prévision de déficit du gouvernement. Sur les 11 milliards de dépenses ou de moindres rentrées fiscales annoncées en décembre par le chef de l'État, 3 milliards 700 millions doivent être compensés par des rentrées fiscales qui n'ont pas encore été détaillées. La Cour des comptes appelle donc le gouvernement à présenter rapidement des projets de loi rectificatifs pour le budget de l'État et la sécurité sociale.
Et puis toujours dans son rapport, donc Marie, la Cour des comptes pointe des défaillances de gestion ou de problèmes économiques de la dépense publique.
Oui, la Cour adresse des observations et rend compte du suivi de ses précédentes recommandations pour 22 sujets différents. Je ne les citerai pas tous, mais dans le domaine de la santé, par exemple, elle relève que 5% des patients qui passent par un hôpital en France contractent une maladie nosocomiale et que ce chiffre ne diminue plus. Elle regrette que le recours aux urgences ne soit pas justifié dans 10 à 20% des cas, ce qui nécessiterait de revoir les parcours de soins, un sujet récurrent. Sujet social, la lutte contre la fraude au travail détaché est mieux dotée sur le plan juridique, relèvent les magistrats de la rue Cambon, mais ils relèvent qu'il y a aussi très peu de poursuites pénales. Sur 12 000 affaires qui ont été orientées vers la justice entre 2014 et 2016, moins de 3 000 ont donné lieu à des poursuites judiciaires. Le rapport s'intéresse aussi à la politique des lanceurs spatiaux, pas assez européenne, la ville de Bobigny, aux charges de personnel trop élevées, ou encore la nouvelle université de Lille, dont la fusion reste à parachever, et Radio France, dont la situation financière reste fragile, nous dit la Cour des comptes.
Merci Marie Viennot. Et pour continuer d'évoquer ce rapport, invité en direct et en duplex depuis l'Assemblée nationale, la députée Frédérique Dumas. Bonjour madame.
Bonjour.
Et à mes côtés en studio pour vous interroger, Sophie Delpont. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Je rappelle tout d'abord, Frédérique Dumas, que vous avez quitté La République En Marche pour rejoindre l'UDI après la publication de votre rapport sur la réforme de l'audiovisuel public. C'était en septembre dernier. Alors dans son rapport, la Cour des comptes estime que Radio France, la Maison Ronde, a fait des progrès en matière d'audience et de gestion depuis 2015, mais elle l'appelle à se réformer pour sortir d'une situation financière inquiétante selon elle. Ces recommandations sont-elles conformes à votre rapport ?
Alors, elles sont conformes dans les pistes. Elles sont peut-être moins conformes dans l'approche parce que c'est une approche purement budgétaire. Alors moi, j'avais fait mes préconisations dans le cadre, évidemment, d'un... Comment dire, j'avais redonné du sens quand même et un projet. Et notamment, une des suggestions de la Cour des comptes, c'est de revoir le temps de travail. Moi, j'avais fait cette proposition, mais je l'avais placée dans le sens où maintenant, on est effectivement, il va y avoir une. D'ailleurs, Radio France est en train de profondément changer son modèle opérationnel, c'est-à-dire avec des pôles contenu et des pôles médias, ce qui veut dire que les métiers changent et que la façon de les exercer change. Et donc, moi, j'avais dit qu'il fallait nouer un véritable pacte social, c'est-à-dire en contrepartie d'une réouverture, effectivement, des discussions sur l'organisation et le temps de travail, que derrière, en contrepartie, il y a un grand plan d'investissement dans les compétences, dans la formation, et que ça soit autour d'un projet partagé et non pas imposé.
Frédérique Dumas, donc le chantier de la Maison de la Radio est notamment pointé du doigt par la Cour des comptes qui montre qu'il s'agit d'un gouffre financier. Le coût global est estimé à 583 millions d'euros. Le chantier a été lancé en 2005. Il devait s'achever en 2018. Or, la nouvelle date de fin de chantier provisoire est maintenant fixée à 2022. On rappelle qu'en 2004, quand ce projet a été lancé, on était sur une fourchette autour de 300 millions d'euros de totalité de budget. Est-ce que c'est là, notamment, qu'il faudrait faire des économies selon vous?
Bah écoutez, là, on est face à un problème qui ne touche pas que Radio France, mais qui touche l'ensemble.
Par rapport à Radio France,
des grands chantiers,
on va rester sur Radio
public.
France, si vous voulez bien.
Pourquoi je vous dis ça? C'est que, en fait, c'est un chantier qui n'a pas été décidé obligatoirement par les présidents de Radio France, mais par la tutelle. Donc, si la tutelle, effectivement, s'il y a un problème, c'est la tutelle qui doit être réinterrogée.
Le ministère de la Culture, vous voulez dire. Pardonnez-moi, Frédéric Dumas, vous parlez du ministère de la Culture.
Ministère de la Culture, Matignon, je parle du gouvernement. Après, évidemment, on sait que c'est bien sûr la tutelle, le ministère de la Culture, mais c'est bien sûr Matignon. C'est Bercy, c'est-à-dire les trois ministères qui sont des ministères de tutelle de l'audiovisuel public. Ce que je voulais dire, c'est que c'est un souci sur l'ensemble des grands chantiers publics. Actuellement, moi, je suis aussi sur l'histoire du Charles de Gaulle Express. On est sur des chantiers publics qui coûtent trois fois plus d'argent la plupart du temps que ce qui est prévu au départ. On ne sait pas les arrêter, on ne sait pas les contrôler. Donc, c'est une donnée générale. Et au moment où on se réinterroge sur où il faut trouver de l'argent et comment, Je pense qu'il faudrait effectivement réinterroger un certain nombre de chantiers. Là, je pense qu'on peut plus le réinterroger. Donc, c'est trop tard. Je pense que le dire, c'est une chose, mais c'est à l'État de prendre ses responsabilités. Alors, il y a un certain nombre de restrictions budgétaires qui sont proposées à Radio France. A priori, la Cour des comptes parle de crise financière en évoquant l'impact que pourraient avoir les demandes qui ont été faites de réduction du budget à Radio France. Donc effectivement, il y a un vrai problème de responsabilité de la tutelle.
Frédéric Dumas, donc dans les suggestions de la Cour des comptes, il y a notamment l'idée de faire passer la radio MOVE, qui s'adresse aux jeunes de musique urbaine, faire passer la radio MOVE uniquement sur le web. Cette mesure-là permettrait d'économiser seulement, entre guillemets, 1 million d'euros par an. Vous en pensez quoi ? Est-ce qu'il faut passer sur le web intégralement pour MOVE ?
Alors d'abord, si c'est l'objectif est budgétaire, vous avez vous-même pointé le fait que c'était assez ridicule, mais le problème est ailleurs. J'ai vu que le ministre de la Culture avait dit que c'était peut-être une mesure sur laquelle il fallait temporiser, en disant ce serait contraire à la priorité qui est donnée par le gouvernement aujourd'hui d'aller chercher les jeunes. Alors je ne comprends pas pourquoi cette priorité n'a pas été mise en avant pour France 4, puisque ça veut dire qu'a priori une chaîne pour enfants n'est pas prioritaire.
Frédéric Dumas, on a une petite minute ensemble. Vous parliez donc de France 4, chaîne de TNT.
Et donc je pense que
je reviens une minute avec vous, pardonnez-moi, je vous ai coupé. Mais en fait, on a aussi dans ce rapport de la Cour des comptes une suggestion qui est donc de renégocier le temps de travail, de maîtriser, entre guillemets, la masse salariale. Alors même qu'à Radio France, il y a aussi beaucoup de problèmes de précarité qui perdurent. Donc les personnes qui ne sont pas en CDI, en CDD, en pige, les journalistes, les assistants, les techniciens. Que pensez-vous donc de cette suggestion de la Cour des comptes compte tenu du contexte de précarité que nous vivons à Radio France et vous connaissez.
Rapidement, s'il vous plaît.
Oui, alors je continue quand même sur le MOVE pour dire je pense que c'est pas une bonne idée puisque à l'heure des fractures, on ne passe pas le MOVE sur le numérique. Ça, c'est contradictoire.
Et oui, sur, on vous a
sur la sujet. Oui, et sinon j'avais un peu répondu en début d'interview pour vous dire que je suis pour effectivement réouvrir les discussions sur le temps de travail, mais il faut savoir aussi intégrer ce qu'on appelle des précaires, c'est des contrats à durée déterminée, parce qu'ils sont la chance de renouvellement du personnel. Donc et moi je pense qu'il ne faut pas opposer permanent et contrat à durée déterminée, parce que il faut les deux.
Et on terminera là-dessus. Merci à Frédéric Dumas, député UDI, d'avoir été en direct avec nous depuis l'Assemblée nationale. Merci également à Sophie Delpont ainsi qu'à Jérémy Tuile pour les moyens techniques.
Merci.
Il y eut d'abord cette image, celle d'un hémicycle offrant un contraste saisissant entre des hommes en costume sombre assis aux côtés de leurs homologues féminines, des élus majoritairement démocrates, toutes de blanc vêtues en hommage au centenaire du mouvement des suffragettes. Une manière aussi sans doute pour l'opposition de marquer sa différence et se faisant d'acter surtout la débâcle du parti républicain lors des élections de mi-mandat ayant conduit un nombre record de femmes et d'élus issus de minorités à entrer au Congrès américain. Ensuite, le décor ainsi planté, illustrant à lui seul les tensions politiques à Washington, Donald Trump, comme on pouvait s'y attendre, a voulu montrer de lui hier soir l'image d'un président rassembleur appelant à l'unité et au compromis, une allocution à la tonalité plutôt sobre, donc pour un chef de la Maison-Blanche au diatribe pourtant souvent tapageuse. Alors pourquoi ? Sans doute, le traditionnel discours sur l'état de l'Union est-il généralement l'occasion de ce genre d'incursion très ponctuelle dans le monde rhétorique de la concorde ? Mais pas seulement, il y a là probablement une explication relevant de la pure stratégie politique, ou dit autrement, Donald Trump a tout simplement lancé la campagne pour sa réélection en 2020. Nathanaël Charbonnier, bonjour.
Bonjour.
Alors pour cela, Donald Trump a multiplié les sujets politiques, nationaux, internationaux, économiques, sans craindre de s'arranger parfois légèrement avec la réalité, Nathanaël.
Ah oui Thomas, vous savez, Donald Trump c'est un peu comme Walt Disney, c'est un monde parallèle dans lequel lui seul est le héros, lui seul a raison, lui seul sait tout faire, et qu'importe la réalité, de toute façon, les fake news, les fausses informations, ce sont les journalistes qui les fabriquent. C'est ainsi qu'une nouvelle fois, eh bien, il a profité de sa tribune pour dire tout le bien qu'il pense de lui. Après 24 mois, notre économie est enviée par le monde entier, s'est-il réjoui. Un miracle économique se produit jour après jour, a-t-il poursuivi, et de conclure en expliquant que l'Amérique est en train de gagner. Pourtant, quand on décortique son discours à plusieurs reprises, on s'aperçoit qu'il avance, et ce qu'il avance n'est pas forcément ce qui se passe. Donald Trump parle ainsi de 5,3 millions d'emplois créés l'année dernière aux États-Unis, et il est bien vrai que la tendance est bonne, mais elle est en dessous du chiffre avancé qui lui tourne plus autour de 4,9 millions d'emplois. Même approximation en ce qui concerne la croissance. Donald Trump explique que les Américains sont les meilleurs avec une croissance de 3,5 au dernier trimestre. Mais voilà, il oublie de dire que les Chinois sont loin d'au-dessus avec plus de 6,5% ou que l'Inde qui dépasse les 7%. Mais qu'importe, pour Donald Trump, l'important c'est ce qu'il dit plutôt que les faits. Son fameux slogan « l'Amérique first » semble souvent se décliner en « Donald Trump first ». Et pour ceux qui s'inquiètent de l'avenir, le président américain l'a encore à la parade. Si des nuages s'annoncent, la faute n'est pas à chercher de son côté, mais dans le camp des démocrates et de ceux qui tentent de lui mettre des bâtons dans les roues.
Un miracle économique est en train de se produire aux États-Unis. Et la seule chose qui risquerait d'arrêter cela, ce sont des enquêtes ridicules, politiques et partisanes.
Et Donald Trump de faire allusion aux enquêtes en cours, notamment sur ses relations avec la Russie. Alors, approximation, mais aussi méthode couée. Le président américain maintient sa volonté de construire un mur entre les États-Unis et le Mexique. Il explique que le mur se fera, qu'il permettra de sauver des vies. Il explique que démocrates et républicains doivent trouver un compromis et qu'il ne pourra en être autrement. Méthode Coué, je vous disais.
Merci Nathanaël Charbonnier. Et puis toujours à l'occasion de ce discours, on l'a appris hier, le prochain sommet entre le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un aura lieu au Vietnam. Ce sera les 27 et 28 février prochains. Il se trouve que cette confirmation survient alors que le négociateur américain pour la Corée du Nord vient lui justement d'atterrir à Pyongyang. Or, ses premières déclarations laissent à penser que Washington serait prêt désormais à se montrer beaucoup plus flexible dans ses négociations avec Pyongyang. C'est une correspondance à Séoul signée de notre correspondant de RFI pour France Culture, Frédéric Ojardias.
Parti à 9h ce matin de la base militaire américaine d'Osan en Corée du Sud, Stephen Biegun a atterri une heure plus tard à Pyongyang. L'émissaire américain a entamé des discussions concrètes pour préparer le sommet Trump-Kim et pour parvenir peut-être à un accord de dénucléarisation. À Séoul, les analystes ont décelé des motifs d'optimisme dans de récentes déclarations de Stephen Biegun, qui a confirmé que Kim Jong-un s'était engagé à démanteler toutes ses installations de production de combustible nucléaire et même davantage. Biegun a aussi indiqué que les États-Unis, de leur côté, semblaient disposés à signer la fin formelle de la guerre de Corée, une exigence nord-coréenne depuis des décennies. Washington pourrait même accepter de lever certaines sanctions avant que le régime ne démantèle complètement et avant qu'il ne soumette un inventaire détaillé de son arsenal nucléaire. Il s'agit là d'un changement notable de la position américaine, une flexibilité nouvelle qui pourrait permettre de trouver un compromis qui serait historique. À Séoul, le gouvernement a salué l'annonce de la tenue du sommet fin février et il rappelle que le pays hôte, le Vietnam, a mené une guerre sanglante contre les États-Unis avant de devenir un pays ami.
Confronté aux incertitudes provoquées par l'annonce surprise du retrait américain de Syrie, les ministres des Affaires étrangères des pays de la coalition anti-Daesh, dont Jean-Yves Le Drian pour la France, se réunissent aujourd'hui à Washington. L'objectif est de faire le point sur la campagne militaire actuellement menée contre les djihadistes. Une opération qui touche à sa fin, mais en coulisses, les participants entendent surtout connaître les véritables intentions des États-Unis au Levant. Les précisions de Christian Chéneau.
Une réunion pour accorder les violons de la coalition anti-Daesh et surtout pour essayer de décrypter la position américaine. Depuis l'annonce du retrait des 2000 GIs de l'Est syrien par Donald Trump, la stratégie des États-Unis est de moins en moins lisible, de plus en plus chaotique et donc suscite la perplexité des alliés de l'Amérique sur le terrain, à commencer par la France. En coulisses, les diplomates américains estiment que même si Daesh est quasiment vaincu militairement, la phase actuelle est très critique parce que l'organisation terroriste utilise une tactique de guérilla pour déstabiliser le nord de la Syrie et l'Irak. Pour la diplomatie américaine, la priorité cette année est de se concentrer sur la stabilisation des régions libérées des djihadistes et de maintenir une assistance sécuritaire. Voilà la feuille de route pour 2019 que les Américains vont présenter à leurs alliés. Sauf que dans la coalition, on veut surtout savoir comment va se dérouler le retrait des soldats américains. Qu'adviendra-t-il des combattants kurdes en première ligne face à Daesh, mais aujourd'hui menacés par la Turquie? Bref, qui remplira le vide laissé par les États-Unis en Syrie?
Les chefs d'État du G5 Sahel sont réunis depuis ce matin pour un sommet à Ouagadougou. Objectif, tenter d'enrayer la spirale infernale dans laquelle s'enfonce le Burkina Faso où les attaques djihadistes se multiplient avec encore 14 personnes tuées lundi dernier. On termine avec un mot rapide de météo. Une perturbation ondulera de la Bretagne vers le nord du pays mais aussi l'ouest de la Bourgogne et la Champagne-Ardenne, imposant un ciel couvert et pluvieux partout ailleurs. Du soleil. Quant aux températures, elles seront généralement comprises cet après-midi entre 7 et 15 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles de Merguet à 18h. Vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.